réplique « Y a-t-il une loi naturelle ?» avec Pierre Manant. Comme le faisait remarquer naguère Claude Lefort, l'expansion du marxisme dans l'ensemble de la gauche française a été longtemps de pair avec une dépréciation du droit en général et la condamnation véhémente, ironique ou scientifique de la notion bourgeoise des droits de l'homme. Cette notion a été réhabilitée par le grand mouvement de la dissidence antitotalitaire et notamment par le manifeste de la Charte 77, rendu public à Prague, en pleine normalisation soviétique, et dont voici le premier article. La Charte 77 est une communauté libre, informelle et ouverte, d'hommes, de convictions, de religions, de professions différentes, liées par la volonté de s'engager individuellement et en commun pour le respect des droits de l'homme et du citoyen dans notre pays et dans le monde. Ainsi, l'expression des droits de l'homme a retrouvé sa place dans le lexique moral et politique de notre temps. Mais comme l'écrit Milan Kundera, qui a quitté la Tchécoslovaquie pour la France en 1975, à mesure que la lutte pour les droits de l'homme gagnait en popularité, elle perdait tout contenu concret pour devenir finalement l'attitude commune de tout à l'égard de tout, une sorte d'énergie transformatrice des désirs en droits. Le monde est devenu un droit de l'homme et tout s'est mué en droit. Le désir d'amour en droit à l'amour, le désir de repos en droit au repos, le désir d'amitié en droit à l'amitié, le désir de bonheur en droit au bonheur, le désir de crier la nuit dans les rues en droit de crier la nuit dans les rues. Sur l'ère de la plaisanterie, Kundera pose le problème très sérieux de l'extension indéfinie des droits de l'homme. Pierre Manant, dans son dernier livre, s'interroge sur les raisons et l'origine de cet emballement. Et il lui oppose, avec une intrépidité certaine, la loi naturelle. Or, cette expression a disparu de la langue courante et même de la langue philosophique. Les modernes, et il y a longtemps que nous sommes modernes, ne parlent plus ainsi. Il faut donc commencer par la définition. Qu'est-ce que la loi naturelle et peut-elle encore être un recours, Pierre Manant ?
Bonjour Alain Ficalcroth. Je ne suis pas surpris par votre question. J'essaie d'y répondre tant bien que mal dans ce petit livre. Vous avez rappelé à quel point la notion était aujourd'hui discréditée, oubliée, et depuis longtemps discréditée, oubliée, parce que la notion paraît contradictoire, n'est-ce pas ? La nature ne commande rien, la loi, c'est l'homme qui l'a fait. Telle est la sagesse commune aujourd'hui. Alors, quel est le sens de cette notion, ou quel est plutôt, je dirais, qu'est-ce qui fait que nous avons besoin de cette notion ? Il est entendu que l'homme fait la loi. Il est entendu que nous organisons la société humaine selon certaines idées. Mais est-ce que nous l'organisons à partir de rien ? Est-ce que nous pouvons produire le monde humain à partir de rien ? Alors peut-être le Dieu ou la divinité peut-elle produire quelque chose à partir de rien ? Mais je ne pense pas que l'être humain puisse produire quelque chose à partir de rien, et certainement pas l'ordre humain à partir d'un néant d'ordre. Donc, qu'est-ce qui, à la fois, nous dirige, nous pousse, nous nourrit pour constituer un ordre humain ? Eh bien, c'est, disons, la nature humaine dans l'ampleur, la diversité de ses déploiements possibles. Donc, conduire la vie humaine, c'est à la fois exercer sa liberté, mais c'est exercer sa liberté selon des indications, des informations, des enseignements que l'on trouve dans quoi ? Que l'on trouve dans l'expérience que notre nature humaine fait d'elle-même, dans la manière dont nous exerçons notre vie. Donc, qu'est-ce que la loi naturelle, dans ce qu'elle a de plus radical, en quelque sorte, dans ce qui lui donne son sens ? Eh bien, c'est, en quelque sorte, ces condensations de l'expérience humaine dans les institutions communes dans lesquelles nous exerçons notre humanité. Donc, la loi naturelle, c'est la manière dont nous découvrons, orientons notre humanité dans ces institutions que sont les cités, les universités, les mariages, c'est-à-dire ces institutions constitutives d'un monde humain reconnaissable. L'être humain n'est pas un inconnu. Dieu est peut-être absconditus, n'est-ce pas ? Penitus absconditus, dit saint Thomas, entièrement inconnu. Nous ne pouvons pas dire ça de l'homme. L'homme n'est pas un X. L'homme se connaît en s'exerçant dans les cités, et c'est dans les cités qu'il découvre la loi naturelle.
Bien, mais alors, vous essayez, malgré tout, à une définition de la loi naturelle, dans votre livre « La loi naturelle et les droits de l'homme » permanent, et vous dites que cette notion implique que nous soyons en mesure de juger les conduites humaines selon des critères stables, clairs et largement, sinon universellement partagés. Et donc, on peut ramener la bigarrure du phénomène humain à l'unité de caractère commun à tous les hommes. Et votre proposition, c'est de dire que il y a trois paramètres qu'il faut prendre en compte, l'agréable, l'utile et le juste. Et dites-vous, concluez-vous, une société, un régime, une institution qui ne font pas suffisamment de place, qui n'ouvrent pas une carrière suffisante aux trois grands motifs, donc de l'agréable, de l'utile et du juste, cette société, ce régime, cette institution ne sont pas conformes à la loi naturelle. Mais on voit immédiatement le problème, d'ailleurs vous l'abordez. Peut-être les hommes peuvent-ils s'entendre sur l'utile. Sur le juste, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est d'ailleurs de là qu'est né l'État moderne fondé sur les droits de l'homme. Et ça, vous en avez parlé dans d'autres livres. La guerre civile a traumatisé l'Europe. Et la guerre civile, c'était la guerre des dieux, c'est-à-dire une mésentente radicale sur la question de la vie bonne. Dès lors, on s'est rabattu sur une définition minimale de ce que les hommes ont en commun, la peur de la mort violente, dit Hobbes, donc le désir de se conserver. Et on a voulu, pour les hommes, pour les communautés humaines, un objectif plus modeste que la vie bonne, c'était la vie confortable. Or, aujourd'hui, la mésentente sur la vie bonne et sur la vie juste éclate aux yeux de tous. Il n'y a pas de guerre civile, mais il y a des guerres religieuses qui font rage. Donc, nous sommes ramenés par cela, peut-être, à mieux comprendre le fondement de l'État moderne et le rôle que peuvent y jouer les droits de l'homme, Pierre Manant.
Vous avez raison de souligner que le mouvement des droits modernes s'enracine au départ dans l'expérience de la guerre civile, dans l'expérience des guerres de religion, dans ce que Weber a appelé la guerre des dieux. Mais autant il faut garder mémoire de cette expérience, à la fois parce qu'elle a été formatrice et à la fois parce qu'on risque toujours de retomber dans l'expérience de la guerre civile, autant il faut se demander si les enseignements que nous avons retirés à un moment donné de cette expérience peuvent être généralisés, c'est-à-dire s'ils suffisent à nous orienter dans le monde humain. Est-ce que cette humanité minimale est suffisante pour nous orienter dans le monde humain ? Est-ce que, en disant sur le juste, sur le bien, sur les questions ultimes, nous sommes en divergence nécessaire, inévitable, donc réduisons notre vie commune, en quelque sorte, à la conservation confortable du corps. Je crois que c'est un geste désespéré, d'une certaine façon. C'est abandonner, finalement, ce qui fait le plus propre de la vie humaine, c'est-à-dire l'interrogation sur le bien dans la vie humaine. Alors, une vie humaine, une société humaine, je dirais, organisée de la manière la plus désirable, c'est une société où, bien sûr, un minimum de droits communs est assuré, mais aussi une société dans laquelle l'interrogation sur la vie bonne est possible, légitime et soutenue d'une certaine façon par l'atmosphère sociale. Qu'elle ne soit pas immédiatement écartée au motif que, vous parlez de la vie bonne, donc vous allez introduire la guerre civile. Non, quelle vue désespérée et désespérante de la vie commune, n'est-ce pas ? Nous devons être capables de nous interroger sur les biens communs, sur les finalités de la vie humaine, sur la meilleure façon de nous organiser sans immédiatement nous soupçonner d'amener la guerre civile. Donc, je plaide pour une société, en quelque sorte, suffisamment éloignée de l'expérience traumatisante des guerres de religion, suffisamment mûre et suffisamment sereine dans sa maîtrise de ses ressorts politiques et, je dirais, psychiques, pour accepter la discussion sur les biens humains.
Alors, que la vie commune ou la vie humaine ne se réduise pas à la passion du bien-être, on en a tous fait l'expérience avec la mort d'Arnaud Beltrame. Mort héroïque, mais mort aussi qui avait un aspect de sainteté, dans la mesure où Arnaud Beltrame n'est pas simplement mort pour la patrie, il s'est substitué à une otage. Et le désintéressement poussé jusqu'à le risque, il ne voulait pas mourir, mais il risquait au risque de mourir pour l'autre, c'est la définition que Lévinas donne de la sainteté. Et il y a quelque chose de commun entre ce lieutenant-colonel de gendarmerie français et le prêtre polonais Maximilien Kolb, qui, dans le camp d'Auschwitz, a pris la place d'un père de famille désigné avec 9 autres détenus pour être enfermé et tué par la faim en représailles à une évasion. Oui, mais justement, ça vous donne raison. Non pas que on puisse citer Arnaud Beltrame en exemple. Tout le monde n'est pas capable de ça. Nous ne sommes pas capables de ça. Mais ça nous dit, en effet, que le conatus, c'est pas le dernier mot de l'humain. La persévérance dans l'être. D'un autre côté, cet acte donc redonne le sens de la hauteur. Mais en même temps, l'opposition apparaît flagrante entre son sacrifice et celui des djihadistes qui font don de leur vie pour tuer, en devenant eux-mêmes une arme de destruction, pour tuer le plus possible d'apostats ou d'infidèles. Donc on se rend compte qu'il y a sacrifice et sacrifice, martyr et martyr. Nous sommes à nouveau confrontés à une séparation abyssale, si vous voulez. Et alors, donc, comment, à partir du, avec le concept qui est le vôtre de nature humaine et de loi naturelle, rendez-vous compte de cette séparation. Une séparation intraitable dont vous parlez dans votre livre La raison des nations, Pierre Manant, pour dire que c'est ce qui était révélé par l'attentat du 11 septembre. Pierre Manant.
Vous voyez que, sur ces questions, ultimes, on peut faire des distinctions. Vous avez évoqué 3 cas de figure. Le père Kolb, qui sacrifie positivement, directement sa vie, puisqu'il sait qu'il va mourir.
Il sait qu'il va mourir, lui.
Le lieutenant-colonel Beltrame prend le risque de se sacrifier. Prend le risque de se sacrifier parce que cela correspond à l'idée qu'il se fait de sa fonction, de sa mission, qui est de défendre ses concitoyens. Et troisième cas de figure, le terroriste qui se fait sauter pour tuer, donc dont l'intention est directement, principalement, primordialement, de tuer. Donc, le sacrifice a 3 versions que nous sommes capables de distinguer très rigoureusement. Et donc, nous sommes capables de nous orienter dans le monde humain, même dans les questions ultime, dans les questions ultimes, la conversation rationnelle nous permet de distinguer, alors, 2 versions éminentes du bien, le père Kolb et le lieutenant-colonel Beltrame, et une version terriblement évidente du mal. Donc, ces exemples que vous avez mis en avant, Alain Finkielkraut, justifient plutôt ma confiance dans la capacité de la raison pour s'orienter dans le monde humain. On ne va pas dire, face à ces 3 exemples, bon ben chacun choisit son dieu ou son démon comme il l'entend, les uns se font sauter, les autres se sacrifient. Non, nous sommes bien d'accord, je crois, et l'immense majorité de nos auditeurs et des nos concitoyens seront d'accord pour dire que l'on peut distinguer raisonnablement entre ces cas de figure. Donc, la conversation civique est possible et le discernement collectif de ce qui est bien et mal est possible. Nous ne sommes pas réduits, encore une fois, à cette moralité élémentaire de la conversation confortable du corps.
Vous êtes très convaincant, Pierre Manant, mais alors, peut-on continuer à défendre l'idée de nature humaine, comme vous le faites, quand on est confronté à des différences culturelles aussi abyssales? Parce que c'est aussi, parce que évidemment, le djihadisme n'est pas né de rien. Il est né d'un monde dont il est peut-être une expression pathologique. Il ne s'agit pas de mettre ce monde dans son ensemble en accusation, mais tout de même. Donc, on est là aussi, on se dit oui, il y a quelque chose de naturel, et on se dit mais peut-être pas, puisque on se trouve face à justement ce que vous appelez vous-même la bigarrure du phénomène humain. Pierre Manant.
La nature humaine est, comment dire, comprend dans sa définition le mal non moins que le bien. Donc le mal ne peut pas nous surprendre.
Et quand le mal est vécu comme un bien, quand mal dans certaines cultures, dans certaines civilisations est perçu comme un bien, qu'est-ce qu'on fait ?
Le mal est vécu comme un bien, mais il a toujours été vécu comme un bien. Celui qui fait mal croit qu'il fait bien. C'est même le fond de l'analyse classique, n'est-ce pas, de la mauvaise action, n'est-ce pas, que celui qui commet une mauvaise action ne veut pas commettre une mauvaise action, il veut commettre une action qu'il juge désirable, et cette action est mauvaise. Donc l'humanité soit capable d'actes épouvantables n'est pas un argument contre l'idée d'une commune nature. Hélas, nous sommes capables de comprendre que des êtres humains commettent des atrocités, et en l'occurrence des atrocités au nom du bien, mais commettre des atrocités au nom du bien, au nom d'une idée supérieure du bien, cela fait très longtemps que nous en avons l'expérience, et particulièrement dans l'histoire politique moderne, n'est-ce pas ? Les grands massacres idéologiques sont bien des massacres au nom du bien. Donc, ce cas de figure nous est hélas familier, et alors, il nous est familier, mais il nous reste mystérieux. Il nous reste mystérieux, nous ne devons pas cesser d'essayer de comprendre comment nous pouvons, au nom du bien, nous transformer ainsi un assassin. Et dans ce cas, cela réclame de nous une exploration des motifs de l'être humain. Et le terrorisme aujourd'hui nous interroge très intimement sur les ressorts de nos actions. Vous avez parlé de pathologie, on peut parler de perversion d'une idée du bien, une idée de ce que demande la divinité de nous, qui se transforme en souhait de meurtre. Donc les jeux, en quelque sorte, dans notre âme, si je peux employer une expression désuète, mais néanmoins significative, le jeu de l'idée du noble, l'idée du juste, l'idée sublime du noble et du juste, elle peut nous rendre fous si elle n'est pas convenablement éduquée, maîtrisée dans des institutions, dans une société qui sait à la fois faire sa place à l'idée du noble et du juste et aussi prévenir les débordements ou les inversions ou les perversions de ces idées du noble et du juste. Donc notre société doit être capable aussi d'éduquer au noble et au juste et non pas simplement dire le noble et le juste rend certains fous, donc abandonnons la question du noble et du juste et organisons-nous sur la base de l'agréable et de l'utile. Non.
Vous avez raison, mais peut-on encore naturaliser la sublime idée du juste quand les choses justes diffèrent de d'une société à l'autre? Moi, je pense être d'accord avec la réponse que vous allez donner, mais beaucoup de gens raisonnent ainsi aujourd'hui, Pierre Manant.
Comment vous voulez dire ?
Je veux dire, voilà, comment naturaliser l'idée sublime du juste quand on prend conscience, et depuis Montaigne jusqu'aux ethnologues, que les choses justes divergent d'une société à l'autre.
Soit, elles divergent d'une société à l'autre. Enfin, il y a des paramètres communs de l'existence humaine. Nous avons évoqué un certain nombre de cas typiques. Une société, c'est cet élément, ce cadre dans lequel nous nous interrogeons sur cette question. Nous sommes des citoyens agissants. Nous ne sommes pas des anthropologues, des sociologues qui regardent le panorama des différentes possibilités de la vie humaine et qui vont chercher aux quatre coins du monde et aux quatre coins de l'histoire les mœurs les plus aberrantes. Montaigne est formidable pour ça, il est très drôle. Mais bon, même s'il y a 2837 manières de se moucher, ça n'est pas un enjeu collectif pertinent pour l'action. Donc, ce que nous devons faire, la question de la de nos idées divergentes du juste, eh bien, c'est de les éprouver, de les exercer, d'essayer de les mettre en œuvre dans cette société ou dans les différentes sociétés que nous constituons. Donc, nous avons vu tout de même ce que nous disions à l'instant sur les sacrifices. Nous pouvons parler de ces questions-là, sur les questions qui sont les enjeux aujourd'hui de la vie commune. Nous pouvons élaborer des langages communs. Et c'est en cela que consiste la vie sociale. Ne partons pas de l'idée, parce que si nous partons de l'idée que nous sommes séparés par nos idées du juste, eh bien, alors dans ce cas, la vie sociale, ultimement, nous la déclarons impossible. Je crois simplement que nous devons, instruits par les expériences passées auxquelles vous mentionniez dès le début de notre conversation, donc instruits sur les dangers des idées devenues folles du juste ou du noble ou du vrai, nous gardons suffisamment de confiance à la fois dans notre raison et aussi, je dirais, dans nos vertus sociales pour nous engager dans un débat civique qui veut parvenir non pas à une unanimité de vues, mais à des vues largement partagées de ce qui est bon pour la société que nous formons ensemble.
Alors, vous réintroduisez, Pierre Manant, la loi dans un monde, dans une société habituée à parler presque exclusivement le langage du droit et surtout des droits. Je citais Claude Lefort tout à l'heure, il dit que le mérite des droits de l'homme, c'est d'être en excès sur toute formulation advenue, ce qui signifie encore que leur formulation contient l'exigence de leur reformulation ou que les droits acquis sont nécessairement appelés à soutenir des nouveaux droits. Et le progrès moral se traduit justement par l'empilement des droits. C'est vrai, mais on peut pas dire non plus que la modernité a complètement abandonné la loi. Il y a Kant et la loi morale, l'impératif catégorique. Alors la question que je voudrais vous poser, quelle différence faites-vous entre la loi naturelle et la loi morale selon Kant, qui a aussi un caractère universel? Pierre Manant.
Je pense qu'elle a peu à voir, n'est-ce pas? La loi naturelle dont je parle a très peu à voir avec la loi de Kant, précisément. Elle échappe, n'est-ce pas, à la difficulté que Kant cherche à résoudre, n'est-ce pas, trouver un commandement qui soit purement rationnel et indépendant, en quelque sorte, de tout, et entièrement séparé de nos désirs intéressés, n'est-ce pas ? Une moralité purement désintéressée.
Oui, c'est bon. Ça.
La loi naturelle dont je parle, elle est franchement intéressée. Elle est Kant n'en penserait que du mal. J'en suis désolé, mais il n'en penserait que du mal. Elle est en continuité avec. Elle est une expression des ressorts pluriels de la nature humaine. Encore une fois, l'agréable, l'utile et le juste. Car le juste est aussi une forme de désir supérieur de l'être humain. Et donc, la séparation entre ce qui est intéressé et ce qui est désintéressé ne me paraît pas une bonne façon de résoudre les problèmes déjà si difficiles qui se posent à nous. Donc, je crois que la loi et les droits. La citation que vous donniez de Kundera me paraissait parfaitement pertinente. Quand les droits sont réduits à eux-mêmes, quand il n'y a que des droits, eh bien, la source des droits, c'est le désir. C'est le désir, donc. On donne droit au désir. Et donc, si la loi, c'est simplement l'organisation des droits et la garantie des droits, la loi organise les droits du désir. Donc, la question est-ce que une société peut être ainsi organisée sur la base des droits du désir? Est-ce qu'une société peut être livrée au désir de tous et de chacun? Car c'est ainsi, car c'est cela que déclare, je dirais, l'interprétation actuelle des droits. Et là, j'étais en désaccord, nous avons eu quelques débats avec Claude Lefort que...
Oui, on a, que, même ici d'ailleurs, à Réplique.
Dont d'ailleurs j'aimais la personne et j'admirais l'œuvre. J'admire toujours l'œuvre et je regrette la personne qui est aujourd'hui morte, n'est-ce pas? Claude Lefort a été une figure importante dans la vie de ma génération. Mais lorsqu'il dit, n'est-ce pas, l'indétermination éruptive des droits, je lui disais, mais quelle indétermination, puisque c'est toujours une extension des mêmes droits individuels, c'est toujours plus de droits pour un individu qui n'a aucun autre élément d'orientation dans sa vie. Donc, le principe des droits aujourd'hui est devenu un principe indéterminant, indéfinissant de la vie humaine. Le principe des droits est extrêmement salutaire. Il a été très salutaire, très constructif lorsque il intervient dans une société déjà puissamment constituée avec des principes d'action, des principes de rassemblement, des éléments d'orientation très, très puissants. Et dans ce cas, il élargit en quelque sorte les dimensions intérieures de la société. Il fait entrer davantage de personnes dans les biens de la société. Dans ce cas, les droits sont immédiatement perfectionnants, associants et salutaires. Mais lorsque les droits, en quelque sorte, dans leur déploiement, au lieu d'élargir la participation aux biens de la société, vide la société de ses biens, vide la société de ses éléments de référence, pour ne plus donner comme élément d'orientation que cet individu titulaire d'un droit indéfini et indéterminé, alors, en effet, les droits humains se retournent contre l'être humain et contre la vie humaine.
Alors, les droits humains se retournent contre l'être humain. Je voudrais poursuivre dans ce sens, parce qu'en effet, la Déclaration des droits de l'homme, c'est « les hommes naissent libres et égaux en droit ». Et il y a une définition moderne de la liberté, très bien précisée par Benjamin Constant dans un texte que vous connaissez très bien, Pierre Manant, sur la liberté des anciens et des modernes. La liberté des anciens, c'était la participation constante et active au pouvoir politique. La liberté des modernes, c'est la jouissance paisible de l'indépendance privée. Liberté qui a été bafouée justement par les régimes totalitaires, d'où le recours à la thématique des droits de l'homme par la dissidence, parce que ce sont des régimes panoptiques qui pratiquent l'immixtion violente et permanente dans la vie privée. Mais voici aujourd'hui, et vous y faites référence dans votre livre, Pierre Manant, que la vie privée est mise à mal par ses bénéficiaires mêmes. Pour vivre heureux, vivons cachés, disait-on. Aujourd'hui, c'est tout se passe comme si, pour vivre heureux, il fallait vivre sous les yeux des autres. La soif de reconnaissance l'emporte sur le souci de la vie privée. Moi, j'ai l'impression d'assister, avec les nouvelles technologies, notamment Facebook et autres, à une mutation anthropologique, et nous vivons non plus sous l'ère de la vie privée, mais, comme vous le dites vous-même, sous l'ère du coming out. Alors, comment expliquer cette mutation? Que s'est-il passé? Parce que on peut dire que la modernité a apporté un soin tout particulier à la vie privée. C'est une des conquêtes des temps modernes, et on la voit, en effet, mise à mal par ses propres bénéficiaires. Pierre Manant.
Il y a une part de mystère dans cette, oui, dans ce processus, parce que, en effet, la modernité est entrée dans le monde, si je peux dire, à la fois en valorisant la vie privée, l'individu, pensons à Rousseau, le promeneur solitaire,
voilà,
et en même temps en valorisant et parfois survalorisant le citoyen. Donc, la modernité politique et morale est entrée, si j'ose dire, par les deux bouts, par l'individu dans son authenticité et par la chose commune dans la hauteur de ses exigences et de sa revendication. Bon. Aujourd'hui, il semble que ce mouvement n'est plus en quelque sorte qu'un membre, et que le seul ressort de la vie que nous partageons, que ce seul ressort, ce soit la revendication de l'individu et de ce que la tradition stoïcienne appelait la nature individuelle de chacun. Comme si il n'y avait plus de principe commun susceptible de nous réunir, où le seul principe commun susceptible de nous réunir, c'est le droit pour chaque individu de se manifester dans l'authenticité de sa personne. Tâche évidemment indéfinie, impossible, puisque qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que tu es dans l'ineffabilité de sa personne individuelle et privée, c'est une tâche qu'une vie, comme l'on sait, ne suffit pas à éclairer. Et si la vie sociale se donne pour objectif, dans quelque sorte, cette manifestation aux yeux de tous de la nature intime de chacun, nous sommes engagés dans une tâche qui certainement ne sera jamais remplie et qui ne permet pas d'organiser une vie humaine orientée sur les biens communs. Car si chacun a sa nature individuelle, la vie humaine se réalise malgré tout dans la visée des objets communs à la vie humaine, dans la constitution de ce qui rassemble les hommes, que ce soit du côté des sociétés ou des cités, ou du côté de la vérité ou des vérités. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres humains? Ce n'est pas seulement, ou ce n'est pas peut-être principalement, que nous avons chacun une nature ineffable et indéfinie, mais c'est que nous sommes capables de nous réunir en cité ou que nous sommes capables de chercher ensemble la vérité ou des vérités dans le monde. Donc, ce qui aimante la vie et la rend tout de même le plus intéressant ou la plus intéressante, ce sont nos objectifs communs, quel que soit par ailleurs le goût que nous avons ou l'amour que nous avons pour notre particularité individuelle. Donc là, il y a quand même un déséquilibre qui me semble de plus en plus troublant du psychisme contemporain.
Alors, déséquilibre du psychisme contemporain, dites-vous, et vous donnez deux autres exemples de la dérive actuelle, loin de tout questionnement ultime, loin de toute loi naturelle. Le premier dont je voudrais parler, c'est la première dérive, c'est l'euthanasie, l'aspiration à l'euthanasie. Alors, pourquoi lui faites-vous place et de quoi cette aspiration, selon vous, Pierre Manant, est-elle le symptôme?
Oh, je crois que la question de la fin de vie ou la question de la mort est évidemment une question particulièrement troublante et difficile, mais la réponse à votre question-ci est assez facile. Pourquoi certains, une partie importante de l'opinion tient absolument à parvenir à une certaine légalisation de l'euthanasie? C'est tout simplement pour remplir le programme progressiste moderne, c'est-à-dire que l'homme ne rencontre aucune limite dans la constitution objective du monde humain. Il maîtrise tout ce qui lui advient et la mort elle-même ne lui oppose pas de résistance puisque quand les circonstances lui paraissent convenables, il se donne le droit de donner la mort. Donc il s'agit de constituer l'humanité en souveraine de la vie et de la mort. Et c'est pour cela que l'euthanasie est en effet une question majeure, parce que la question est de savoir si notre société acceptera encore cette limite dans laquelle et par laquelle se constitue la vie humaine. Car à travers toutes les variétés des cultures humaines, il y a un commandement fondateur, à la fois protecteur et fondateur de la vie humaine, et qui est « tu ne tueras point ». Donc, que dans certaines circonstances, dans certaines urgences, ce commandement soit contourné, violé, c'est une chose. Mais que la loi humaine autorise ce que la loi constitutive de l'humanité interdit, c'est cela qui est en jeu dans la question de l'euthanasie. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut absolument refuser tout ce qui légalise d'une façon ou d'une autre l'euthanasie.
Alors, vous êtes très radical, et je vais l'être aussi, Pierre Manant, si vous me le permettez. On ne me classe pas parmi les progressistes, si j'entends la rumeur. Et pourtant, je suis très favorable, je ne dirais pas à l'euthanasie, mais au suicide assisté. L'euthanasie, si c'est un pouvoir qui décide de la vie ou de la mort des gens, c'est l'horreur. c'est l'horreur totalitaire, disons, c'est l'apogée même du totalitarisme, nous le savons. Mais là, je défends tout autre chose. Et je le défends pourquoi ? Parce que dans un corps où tout est réparable, tout est remplaçable, bien, le cerveau, lui, reste hors d'atteinte par la médecine. Ce qui fait que la médecine moderne, comme l'a écrit Anne-Laure Bock, engendre, qui est neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière, engendre des handicapés. Et le risque est grand pour nous tous de devenir, selon encore son expression, peut-être trop dure, des nonagénaires déments. À ces nonagénaires, nous devons toute l'attention du monde, bien sûr. C'est l'humanité même qui se joue là. Mais certains d'entre eux, quand ils apprennent leur diagnostic et qu'ils savent que la médecine ne peut rien faire, sont saisis de terreur et ne veulent pas s'infliger cela ni infliger ça à leurs proches. Ça, c'est-à-dire l'apraxie, l'aphasie, l'agnosie. Un patient apraxique est incapable de porter un verre d'eau à sa bouche. Un patient agnosique est perturbé par le bout de viande qu'il a dans son assiette et ne sachant plus à quoi sert une fourchette, il tente à l'utiliser comme un peigne. Et dans son livre « Je vous tiendrai la main, euthanasie, travaux pratiques », Paulina Dallmayr reproduit cette lettre déchirante reçue par un médecin belge. « Je vis sans espoir, sans passé, sans mémoire, sans avenir. J'ai la maladie d'Alzheimer, je perds peu à peu la parole, je meurs un peu chaque jour, je n'appartiens pas à un dieu, je suis libre, je pense au suicide assisté, j'ai fait ma demande parce que je suis fatigué, j'ai fait mon devoir envers la société, tout le monde peut attraper Alzheimer, riche ou pauvre. » Et dans une carte postale envoyée un peu plus tard, cette femme au bout du rouleau écrit au médecin que s'il n'accepte pas sa demande, elle essaiera de s'écraser contre un mur avec sa voiture. Et puis, je voudrais vous citer aussi, excusez-moi d'être un peu long, le cas d'Antoine Bernheim, qui a exprimé sa volonté d'en finir à 89 ans. Il était devenu hémiplégique après un accident cérébral. Et c'est sa fille Emmanuelle Bernheim, elle-même aujourd'hui disparue, qui en parle dans le livre qu'elle a écrit sur son histoire « Tout s'est bien passé », un livre bouleversant. Et donc, il demande à ses filles de l'aider, mais c'est très difficile en France. Et que fait la jeune médecin chargée de son cas? Elle décide d'augmenter la dose d'antidépresseurs et elle conclut l'entretien en ces termes: ne vous en faites pas, tout va bien de se passer. En général, ils finissent tous par s'accrocher à la vie. Donc, on retrouve là, grâce aux antidépresseurs, ils seront un pur conatus. Et l'homme qui ne veut pas être réduit à la persévérance vitale, qui pense autrement sa vie, eh bien, celui-là n'a plus droit à la parole, et on lui refuse, disons, la sollicitude minimale que pourrait représenter pour la médecine qui est sans pouvoir le suicide assisté. Alors, voilà pourquoi je vous trouve très radical, et j'ai du mal à comprendre pourquoi la loi naturelle vous permet d'arriver à cette conclusion, parce que ce que vous dites de l'humanité et de ses exigences me conduit, moi, à la conclusion inverse. Pierre Manin.
Là, vous avez évoqué évidemment des cas qui ne sont pas si rares et qui sont chacun à sa manière. Chacun est toujours extrêmement émouvant, bouleversant, troublant. Mais vous avez parlé de sollicitude minimale. La sollicitude minimale, c'est d'accompagner et de diminuer la souffrance. C'est le soin jusqu'au bout, le soin réparateur, quand c'est possible, et le soin chargé de diminuer le plus possible la souffrance. C'est cela que les patients demandent et c'est cela que les soins palliatifs fournissent. Sur cette question de l'euthanasie, vous savez que les soignants de soins palliatifs sont les plus opposés à l'euthanasie.
Oui,
et ce sont tout de même eux qui ont l'expérience la plus large et la plus quotidienne et la plus informée de cette condition. Donc, ce qu'ils disent, c'est que le désir de mourir est très difficile, et le désir de vivre sont très difficiles à distinguer dans ces circonstances-là, mais que tout de même l'enseignement qu'ils retirent de leur expérience, et je crois que dans un livre extrêmement impressionnant qui personnellement m'a beaucoup instruit d'Axel Kahn il y a quelques années, la dernière liberté point d'interrogation, leur expérience c'est tout de même que il est très très rare que les sujets actent jusqu'au bout ou souhaitent que soit acté jusqu'au bout le désir exprimé à un moment ou à un autre de mourir. Donc, même si on va au bout du droit subjectif à choisir sa mort, il est clair que il est très rare et très difficile, en tout cas, d'être sûr de répondre au désir subjectif dans ces circonstances extrêmes. Et donc, je dis simplement que, bien entendu, d'ailleurs, c'est ce que font les soignants des soins palliatifs. Il faut être très attentif et aller jusqu'au bout de tout ce qu'on peut faire pour prendre soin d'eux et diminuer la souffrance des patients dans ces circonstances-là. Mais cela ne nous oblige en aucune façon, cela ne nous conduit en aucune façon à inscrire dans la loi une mesure d'euthanasie. Surtout, j'ajoute justement, si on entre dans l'art, si on suppose une telle loi instituée, alors on voit bien la méfiance qu'elle introduit immédiatement entre les patients et les soignants, puisque celui qui vient me soigner, est-ce que ce ne sera pas celui qui va m'achever, n'est-ce pas ? Et puis aussi, la méfiance dans les familles, parce que si la pression dans cette direction commence à être instituée, alors, combien de très vieilles personnes, dans ces conditions-là, vont se dire, est-ce que mes enfants, mes proches, ne sont pas en train de se dire, mais il faudrait que nous fassions usage de cette possibilité qui nous est ouverte. Et donc, on s'engage véritablement dans une direction qui ne paraît pas un progrès de l'humanité.
Oui, mais la Suisse a résolu le problème. C'est pas dans les hôpitaux que les choses se déroulent pour le suicide assisté, mais dans des cliniques, et la volonté du patient est vérifiée à toutes les étapes. Alors, je terminerai sur ce sujet parce que je voudrais aborder un autre exemple par une phrase de Georges Steiner. Il est inconcevable que l'on puisse garder en vie malgré eux ceux qui n'ont plus pour seul espoir que de quitter la vie. Cela me semble d'un sadisme affreux. Alors le mot sadisme est très fort, mais ce n'est pas vraiment faire preuve de sollicitude que de prolonger malgré lui l'être à qui l'on annonce son inéluctable déchéance, ou que de le concéder, comme le permet maintenant la loi, une sédation profonde et continue 2 semaines avant le grand sommeil. Voilà. Donc c'est pour cela que il me semble que la question doit pouvoir se poser, mais dans le cadre précisément d'une réflexion sur l'agréable, utile et le juste, ou plus généralement sur la vie bonne. Donc c'est pour ça que moi je considère que précisément on ne peut pas clore la question au nom de la loi naturelle. On peut l'ouvrir. Pierre Manant.
Oh, je ne prétends pas clore la question ni au nom de la loi naturelle ni au nom. Je vous dis simplement ce que je crois au nom de ce principe constitutif de l'humanité qui est tu ne tueras point. Voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit.
On arrête sur ce sujet, mais il y a un autre thème que vous abordez d'ailleurs à 2 ou 3 reprises dans votre livre, qui relève au fond de l'emballement, de la dérive, de l'indétermination dans laquelle les ultramodernes que nous sommes, les hypermodernes, sont engagés, le mariage pour tous. Et là, vous êtes, en effet, je le disais en commençant, intrépide. Alors, de quoi le mariage pour tous, selon vous, est-il le symptôme, Pierre Manant ?
Je ferai une remarque. D'abord, c'est un cas très, très frappant, parce que ce qui est très frappant, d'abord, c'est la rapidité avec laquelle, dans toute l'ère occidentale, une revendication qui n'était entretenue par personne, il y a 30 ans, ou même peut-être il y a 20 ans, est devenue, non seulement la revendication de beaucoup, mais devenue absolument irrésistible. Et non seulement cela, mais toute réserve sur la revendication est aujourd'hui regardée comme une sorte de scandale. Il est devenu, cette revendication que personne n'avait quand nous étions jeunes, cher Alain, qui ne venait à l'idée de personne, cette revendication, il est aujourd'hui inconcevable que l'on fasse des réserves sur elle. Donc, il y a là, évidemment, un phénomène d'emportement collectif qui, vraiment, mobilise la réflexion et est particulièrement significatif. Alors, la question n'est pas la question de l'homosexualité. Les désirs individuels sont les désirs individuels. La philosophie stoïcienne parlait de la nature propre et de la nature commune. Bon, les désirs des uns et des autres, c'est la nature propre de chacun. Bon, ils regardent chacun et ils n'intéressent pas la cité. Bon, le mariage est une institution. Le mariage est une institution. C'est une institution inscrite dans quoi ? Ben, elle est inscrite tout de même dans la nature humaine, tout simplement. Parce qu'il s'agit à la fois d'organiser les relations entre les sexes et d'organiser la succession entre les générations. Donc, le mariage est l'institution, je dirais, une des institutions les plus formatrices de la vie humaine, parce qu'elle joint de la façon la plus étroite la nature, et le plus naturel de la nature, si j'ose dire, puisque c'est la reproduction, et l'institution, ou la convention, ou si vous voulez, la culture, puisqu'elle règle les relations primordiales entre les sexes et les générations. Donc il y a là un condensé extraordinairement prégnant de nature et de culture. C'est dans la façon dont les mariages sont institués que, en quelque sorte, la société humaine se forme d'abord, n'est-ce pas ? Les sépultures et les mariages, n'est-ce pas ? Les plébéiens réclamaient le droit à quoi, n'est-ce pas ? À avoir des sépultures, et ils réclamaient le droit au mariage dans la vieille Rome, à avoir des mariages.
C'est aussi un des invariants, d'ailleurs, relevé par Vico.
Et c'est absolument...
La sépulture et le mariage.
La sépulture et le mariage.
La religion.
Vico, bien sûr. Donc, nous avons là une institution formatrice, centrale de la vie humaine, liant, encore une fois, relations entre les sexes et relations entre les générations, les deux étant inséparables, puisque ce sont les relations entre les sexes qui produisent les nouvelles générations. Donc, les mariages sont organisés de façon variable suivant les sociétés, mais à travers toutes les cultures, à travers toutes les civilisations, ils ont toujours été liés à cette fonction sociale, à cette mission sociale, à cette finalité sociale. Donc, étendre le mariage aux personnes de même sexe, c'est faire autre chose qu'étendre le mariage aux couples de personnes du même sexe. C'est changer radicalement la définition du mariage. C'est dire, le mariage, c'est la reconnaissance publique d'un lien d'amour ou de désir, d'amour et de désir entre deux personnes. Mais ceci est une autre définition du mariage. Ce n'est pas une extension du mariage. Par conséquent, on introduit un élément, on désinstitutionnalise en quelque sorte l'institution du mariage. Il est parfaitement légitime de dire, bon, aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, les désirs individuels réclament la reconnaissance publique, très bien, dans ce cas, qu'il y ait des institutions adaptées, une union civile, un pax, pour que les couples homosexuels trouvent la reconnaissance et les droits liés à cette reconnaissance dans la société. Mais pourquoi tenir absolument à donner le nom de mariage, c'est-à-dire d'une institution qui a, depuis que le monde est monde, un sens extrêmement caractéristique?
Alors justement, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Pourquoi l'a-t-on fait? Et en effet, vous avez raison, dans les 70-80, cette revendication n'existait pas, notamment dans les mouvements sexuels qui sont apparus à l'époque. Je ne vois pas le guépier réclamer le mariage. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais alors, répondez brièvement, parce que l'émission va se terminer, à la question pourquoi?
Ben, précisément, c'est parce que on fait l'opération la plus improbable, parce que on détache l'institution la plus enracinée dans la nature, c'est-à-dire dans la nature sexuée de l'être humain, à la fois sexuée et se répartissant selon les générations, les deux étant inséparables. Donc, on détache l'institution la plus liée à la nature, on la détache de cette nature dans sa fonction de séparation de joindre la séparation des générations et l'union des sexes. Donc là, l'idée que l'ordre humain, il est à notre merci, que l'ordre humain, il est à notre main, que l'ordre humain, nous en faisons ce que nous voulons, cette loi le magnifie en quelque sorte.
Il trouve son apothéose.
Cette loi en est le témoignage ultime. D'où la férocité avec laquelle un certain secteur de l'opinion la défend, parce que elle est le signe de cette avancée ultime grâce à laquelle l'humanité, en quelque sorte, s'ordonne désormais sous le nom des institutions anciennes, d'une manière totalement indépendante des relations naturelles qui définissaient l'institution originelle. Donc là, c'est l'expérience cruciale, n'est-ce pas, et le stade ultime du détachement de la convention politique de tout enracinement dans la nature humaine.
Voilà l'enjeu, donc. Voilà l'enjeu de cette
loi. Je crois que c'est l'enjeu, en effet, de cette loi.
Bien. Pour réfléchir plus avant, donc, je conseille très vivement aux auditeurs la lecture du livre de Pierre Manant, « La loi naturelle et les droits de l'homme ». Ce livre est publié aux presses universitaires de France. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'ère de la transparence ». Mes invités seront Fabrice Arfi et Denis Oliven. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Marie Lepeintre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.